L'imprévu a du charme, et ça tombe bien, puisque la tribu te propose tout de suite une émission spéciale.
Bonjour à toutes et à tous, et bienvenue dans la tribu pour une émission spéciale. Un de nos rendez-vous, comment on peut dire, parce que il n'y a pas une régularité qu'on peut nommer. Donc, un de nos rendez-vous qu'on peut dire régulier avec les bénéficiaires du pôle prévention senior du CCAS. J'ai tout bien dit. On me dit oui, donc c'est bon. Pour m'accompagner aujourd'hui, parce que, bon, hein, ils vont quand même parler plus que moi, j'ai le plaisir d'accueillir Andrea, qui est une habituée de ces rendez-vous. Bonjour Andrea.
Bonjour Élise.
Comment vas-tu ?
Bien.
Ok. Stéphania, bonjour.
Bonjour.
Ça va aussi ?
Oui.
Et Sacha, bonjour.
Bonjour.
Et du côté du CCAS, nous avons une habituée des lieux, hein, puisque c'est déjà sa troisième émission, il me semble. Véronique, bonjour.
Bonjour.
Ça va bien ?
Très bien.
C'est toujours un plaisir de recevoir Véronique, hein, maintenant. Une première pour Patricia, bonjour.
Bonjour.
Ça va bien ?
Très bien.
Pas trop intimidée par le micro ?
Aussi.
Alors, pas hésiter à se rapprocher un petit peu du micro, hein. Sacha met bien le micro, voilà. Oui. C'est vrai qu'il peut être impressionnant, mais voilà, là, c'est parfait. Et puis, on va quand même dire bonjour aussi à Anthony, qui travaille au CCAS. Salut Anthony, ça va ?
Ça va, merci, c'est gentil.
Voilà, Anthony qui a été surpris par sa propre voix.
Ouais, tout à fait,
bon, allez, au programme aujourd'hui, eh bien, nous allons échanger hein, autour du droit des femmes, puisque, on le rappelle, pour ceux qui seraient passés à côté de l'info, hein, ce vendredi, le 8 mars, c'est la journée internationale du droit des femmes, et on s'est dit que c'était un sujet intéressant à aborder ensemble, c'est-à-dire entre vous, qui avez vécu, vous qui vivez, vous qui avez vécu une adolescence. Alors, on a fait le calcul tout à l'heure, ça remonte un petit peu, on est dans les années 70, et du coup, de voir ce qui a changé, ce qui a évolué en matière de droits des femmes entre les deux époques. On a abordé beaucoup de choses, hein,
oui.
Et on va aborder beaucoup de choses. Mais alors, je me dis qu'on va commencer directement par ce qu'on fait en général. Sacha, Stéphania, Andrea, vous, quand on vous dit les années 70 et le droit des femmes, vous imaginez ça comment ? Comment est-ce que vous imaginez les jeunes filles ou les femmes dans les années 70 ? Qu'est-ce qu'elles pouvaient faire, ne pas faire ? Voilà, qu'est-ce que vous en pensez ? Comment vous imaginez ça ? Andrea ?
Moi, je m'imagine les discours de Simone Veil.
D'accord. Ok. Toi, tu vois ça comment, les années 70 pour les femmes et les filles, Sacha ?
Je pense qu'il y a beaucoup plus d'inégalités qu'aujourd'hui.
Qu'aujourd'hui. Ouais.
Et voilà.
Très bien, Stéphania.
C'est un peu vague, mais du coup...
Stéphania, toi ?
Un peu comme Sacha.
Des inégalités. Alors, si vous imaginez une jeune fille de vos âges, entre 13 et 16 ans, dans les années 70, comment vous l'imaginez ? Qu'est-ce qu'elle faisait ? Qu'est-ce qu'elle pouvait faire ? Qu'est-ce qu'elle pouvait pas faire ? Ouais, Sacha ?
Elle pouvait faire des trucs de fille et pas faire des trucs de gars, quoi.
D'accord. Donc, alors, c'est quoi les trucs de fille et pas les trucs de gars ?
Elle pouvait jouer à la poupée, mais pas jouer à la voiture, quoi.
D'accord.
Elle pouvait jouer à la dinette et pas...
Ok.
Je sais pas...
Et pas bricoler.
Oui, voilà.
Ok. Andrea ?
Elle s'habille en robe et qu'en robe parce que c'était... parce qu'elle ne pouvait pas porter des pantalons.
D'accord. Est-ce que vous avez d'autres représentations comme ça ou... Non ? Bon alors, est-ce qu'on y est dans les représentations ou pas tout à fait ?
Pas tout à fait, mais disons qu'il y a aussi une différence entre l'histoire des années 70 et la réalité dans les familles. Parce que bon, par exemple, les années 70, on pense au mouvement hippie, à la libération de la femme, enfin, à des choses qui sont très évaporées et plaisantes. Mais l'esprit dans les familles n'a pas toujours évolué en fonction de cette société qui était beaucoup plus libertaire. Moi, je sais que, comme tu as dit, en plus, on était dans une famille de 5 filles. Donc déjà, les filles, elles avaient... Ne pas avoir un garçon dans la famille, c'était déjà une tare. Mais les filles, elles n'avaient pas beaucoup de droits au sein d'une famille bourgeoise, très conformiste et bien pensante.
D'accord, donc une famille où il n'y avait pas de garçon, c'était déjà un peu un échec ?
Ah, c'était déjà un échec, parce que de toute façon, si on a été 5 filles, c'est que ma mère voulait absolument un garçon. Quand elle a compris que la 6e serait peut-être encore une fille, elle s'est arrêtée, quoi.
D'accord, ah oui, donc c'est déjà, ça plante déjà un petit peu le décor quand même.
Oui, tout à fait.
Et vous, Patricia, dans ce qu'ils ont dit, est-ce qu'il y a des choses qui sont vraies ou on est...
Je pense qu'au niveau vestimentaire, c'est pas tout à fait ça, parce que dans les années 70, c'était le jean à fond. On avait tous des jeans. Les robes, c'était avant. Okay. C'est un petit peu des années 60.
Donc il y avait déjà une évolution.
Oui, alors après, c'est que je pense que il y a tout un qui circule, c'est-à-dire qu'on sait que le pantalon était dans la loi, les femmes n'avaient pas le droit de porter de pantalon, mais en fait elles en ont porté avant d'avoir vraiment le droit dans la loi. Donc dans les années 70, le pantalon était bien là.
Les années 70, c'était une révolution de tout, quoi, de musique, de vêtements. Il y avait on était complètement à l'ouest de ce qu'il y a maintenant.
Je faisais un petit réglage micro. Alors vous ?
Oui.
On a abordé plein de sujets. Est-ce que vous avez des questions très précises déjà pour commencer ? Qu'est-ce qu'il y a, Sacha ?
Non, est-ce que tu peux... Parce que en fait, j'entends pas tellement
allô,
fort.
Allô, tu m'entends ?
Oui, non, mais j'entends, mais c'est pas...
D'accord, ouais. Ok. Alors, est-ce que vous avez des questions ? Alors, on a dit qu'on allait aborder plein de thématiques. Par quoi vous voulez commencer ? Allez, Andrea, c'est toi qui lance les sujets.
Bah, j'aimerais bien commencer par... les différences entre aujourd'hui et hier, entre les hommes et les filles.
Ok, alors c'est vrai qu'on a parlé, on peut peut-être, vous avez parlé un petit peu de la place dans la famille, on peut peut-être parler déjà un petit peu de ça. C'est, quelle était la place des filles au sein de la famille
de la société.
On va commencer peut-être par la famille et puis après la société. Et qu'est-ce que, voilà, quelle était la place des filles ? Est-ce que là, vous avez l'impression qu'il y a des changements qui se sont opérés durant ces dernières années ?
Bah, oui, au niveau du souhait de la carrière, des études. Donc, moi, j'ai entendu pendant des années « passe ton bac et on verra après ». Donc, une fois qu'on avait le bac, il fallait quand même se débrouiller pour financer ses études soi-même. Donc après, ben, j'ai fait du pionica, des choses comme ça. Mais c'est vrai qu'on était très vite lancés dans la vie active, tout en ayant été surprotégés au sein d'une famille qui n'accordait aucune liberté. Et du jour au lendemain, on avait toutes les libertés possibles. Donc ça a créé quelques difficultés.
Je veux bien croire. Et Patricia, la place dans la famille ?
Je trouve que c'était souvent les parents qui choisissaient les métiers pour leurs enfants. Alors, si la maman était dans les bureaux, elle disait « tu vas travailler ton français parce que tu seras dans les bureaux ». Et puis le garçon, il partait dans les métiers du papa. Quoi. Si le papa était mécanicien, il disait « tiens, tu feras comme ton père, tu seras mécanicien ».
Donc, un choix très restreint.
C'était restreint, voilà. On n'avait pas des idées... on n'allait pas ouvrir une boutique de fringues. On n'aurait pas su comment faire. On était un peu...
Et d'ailleurs, est-ce qu'on se posait même la question de qu'est-ce que j'ai envie de faire ?
Oui, on ne se la posait pas parce qu'on nous a élevés dans ce truc de dire « tu feras ça ».
Oui, c'est ça. C'est qu'en fait, on ne se posait même pas la question... J'ai une petite question parce qu'il y a une phrase qu'on entend et l'autre jour on a été chercher quelques chiffres hein, qui datent de janvier 2024. Hein, c'est le Haut Conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes. C'est le 6e rapport annuel. Et quand on parle de la place de la femme dans la famille, il y a une phrase qu'on entend depuis des années et des années et des années. Que la place de la femme, c'est dans la cuisine. Voilà. Et vous allez être tous et toutes ravis d'apprendre qu'en 2024, hein, plus de la moitié de la population trouve normal ou positif qu'une femme cuisine tous les jours pour sa famille. Ça vous fait réagir ?
Ça me fait un peu réagir parce qu'on a encore des pensées qui datent depuis des années... Et ça me fait mal au cœur.
Et vous, est-ce que ça aurait été envisageable, le père ou le frère qui cuisine ?
Non, il aurait mieux valu que mon frère ne cuisine pas, je crois. on lui aurait dit de cuisiner.
Ouais.
Ça aurait été une catastrophe.
Moi, mon père préparait un plat de crêpes tous les samedis soirs.
D'accord, donc voilà. Alors que vous, les pères ou frères ou garçons qui cuisinent, est-ce que c'est envisageable ? Est-ce que ça se fait ?
Oui, mon père, il cuisine des fois.
Des fois.
Même si ça peut être... Des fois, désolé ça... papa, mais un peu pourri. Mais oui.
D'accord, après c'est plus ses talents que le fait de, d'un homme à la cuisine.
Oui, mais il a fait des fois quelque chose de bon.
Ouais, des fois c'était bon.
C'est arrivé une fois, il y a 3 ans et demi. Toi, Sacha ?
Moi, ça m'arrive des fois.
De cuisiner ?
Oui, de faire souvent des gâteaux.
Mais en tout cas, on se pose pas la question, on ne réagit pas quand on le voit dans la cuisine.
Bah non. Non.
Parce que c'est pas
pour moi, c'est normal aussi, des fois d'aider ma mère quand. Voilà.
D'aider ta mère ?
Oui, des fois ça m'arrive.
Et pourquoi ta mère et pas ton père à la cuisine ?
Non, bah. En fait.
Je taquine un peu,
je
mais.
Pense que, alors, c'est aussi parce que les horaires sont pas les mêmes. Mon père, moi, il finit à 18h le travail. Comme il est au Pouliguen, le temps qu'il rentre, il est 18h30.
Oui, c'est plus une question d'organisation.
Oui, voilà, souvent c'est ma mère qui fait. Après, je dis pas que mon père, il est pas non plus incompétent en cuisine, parce que des fois, ça lui arrive le week-end de faire des burgers ou des trucs comme ça. Et pourtant, quand il cuisine, c'est super bon. Donc voilà. Mais souvent, quand c'est ma mère, des fois, je l'aide un peu.
Mais est-ce qu'il y a toujours des... Vous trouvez qu'il y a toujours... En toute honnêteté et sans jugement, hein, des tâches qui sont quand même un peu plus assignées aux femmes ou aux mères et d'autres au père ou à l'homme, aujourd'hui encore, en toute honnêteté, hein, Sacha. Bah,
le jardin, c'est souvent la tondeuse et les haies, c'est souvent mon père qui le fait. Puis quand c'est le ménage ou la cuisine, c'est souvent ma mère, en fait.
Donc il y a encore quelques stéréotypes de genre.
Après aussi, c'est parce que ma mère, elle est fascinée par le rangement. Elle aime bien ranger. Non, mais elle aime trop ranger et tout nettoyer.
D'accord.
Donc, je sais pas.
Il y en a, il paraît, hein, des gens comme ça. Stéphania.
Moi, je trouve que mes parents, ils se partagent un peu les tâches parce que il y a des fois... ils font tous les deux le rangement, enfin ils cuisinent ensemble, ils font le jardinage, enfin voilà. Donc je trouve que en vrai, dans ma famille, ça va.
Ça va. Oui. Ouais. Ok. Andrea, je te redemande pas. Hein, vous avez la même famille, donc du coup. Et peut-être pareil aussi sur l'éducation des enfants. J'imagine que la place de l'homme et de la femme a un peu changé ces dernières années. Non?
Oh ben, nous on avait une éducation très stricte. De toute façon, on pouvait pas donner son avis si on pouvait pas choisir. Quoi. On nous imposait les choses comme eux avaient envie de nous diriger.
Mais la place du père, par exemple. Enfin, j'ai l'impression que ces dernières années, enfin, il y a des choses qu'on voit qu'on ne voyait pas il y a ne serait-ce que 20 ans, 30 ans. Enfin, en termes de paternité, de je sais pas si vous voyez comme Anthony.
J'enlève des accès aux droits.
Oui.
Il y a le congé parental, et ça peut être soit il y a le congé parental, mais c'est pas forcément la maman qui peut prendre un congé parental, ça peut être le papa. Et il y a le congé paternité aussi qui a augmenté il y a très très peu de temps. Alors j'ai pas les jours en tête. Moi à l'époque j'ai eu 14 jours, mais je crois que ça a énormément augmenté.
Oui, oui. Jusqu'à un mois, je crois.
Mais je trouve que. Et pour l'avoir entendu hein, de personnes qui disaient aussi qu'on voyait quand même beaucoup moins les pères changer les bébés. Enfin, il y a des choses qu'on voit maintenant qui sont devenues naturelles, mais qui à une époque l'étaient absolument pas.
Mais il y a beaucoup de femmes qui ont mis leur vie professionnelle entre guillemets pour éduquer les enfants. Alors elles le faisaient très bien, elles le faisaient à leur façon, elles y mettaient tout leur cœur. Mais le problème, c'est que elles, quand elles sont arrivées à la retraite, elles se sont dit ben voilà. Si mon mari n'avait pas beaucoup travaillé, je n'aurais pas d'argent.
Oui, c'est ça. C'est qu'encore une fois, il faut passer par la case mari pour...
Voilà. Et c'est pour ça que les femmes ne divorçaient pas. Mmh. Les femmes, elles restaient avec leur mari tout le temps.
Mariage subi, ouais.
Oui, c'était subi. Mais enfin, bon, après...
Parce qu'on, nous,
pas par tout le monde, quand même.
Moi, je vais remettre dans le contexte professionnel. Les personnes qu'on accueille au pôle prévention, si on fait une moyenne d'âge, à peu près, on est aux alentours de 75, 77, 78 ans. On est exactement dans le schéma que vous étiez en train de dire, Patricia. Oui. C'est-à-dire que nous, on accueille des femmes qui se retrouvent avec des toutes petites retraites parce qu'elles ont fait, on leur a pas laissé le choix de faire des études. Oui. Pour sortir du foyer familial, il fallait se marier. Donc, pour certaines ou certains, c'était le premier ou le premier qui venait. On se retrouve à 18 ans marié, enceinte. Il faut aussi remettre dans le contexte la contraception, qui est quand même important. Et on se retrouvait à 22, 23, 24 ans avec déjà 1, 2, 3 enfants en bas âge.
Donc, sans l'avoir vraiment choisi. Hein,
sans l'avoir vraiment choisi. Et on se retrouve à 40 ans avec des enfants qui sont majeurs, qui eux sont d'une autre génération et vont pouvoir eux faire des études. Parce que la société a évolué aussi là-dessus, on en parlait tout à l'heure. Et bah voilà, je suis une femme, j'ai pas fait d'études, j'ai pas de diplôme, j'ai jamais travaillé, j'ai 40 ans et je suis sur le marché du travail à 40 ans.
Et les femmes faisaient le rangement très bien. Et elles faisaient ça formidablement bien, les femmes. Donc il n'y avait aucune raison que ça change.
Oui, mais enfin, il y avait beaucoup de femmes qui n'étaient pas épanouies, elles étaient aigries. Ah ben. Et elles nous, enfin, moi je vois par rapport à ma mère, elles nous reprochaient en permanence d'être là pour, parce qu'on l'empêchait de faire, de vivre sa vie ou de faire autre chose, quoi. Donc les grossesses, c'était plutôt subi que voulu.
Oui, puis on était sur finalement un manque de choix tout le long parce qu'effectivement, après, quand on arrive dans des situations comme ça, même si on n'est toujours pas épanoui dans son mariage et qu'on voit que le divorce, ça peut, voilà. Mais il n'empêche qu'on n'a rien derrière et que c'est aussi compliqué. Et que...
Ouais, puis pour terminer ce que je disais, si tu arrives sur le marché du travail à 40 ans, la retraite sans auparavant, elle était à 60 ans, donc tu n'as pu travailler que 20 ans, même si tu as eu quelques trimestres parce que tu as eu des enfants. Il suffit qu'en cours de route, ton mari divorce, lui a une longue carrière, toi tu t'en retrouves avec une petite carrière, et moi j'ai, je ne citerai pas de nom, mais nous on a des dames qui ont le minimum vieillesse, on a des retraites à 850, 880, 900 euros. Vous avez vu la conjoncture actuelle, le prix du kilowattheure, le prix de l'eau, d'un loyer, se loger c'est compliqué, se nourrir, se vêtir, c'est... Donc du coup on se retrouve avec des personnes qui ont 75 ans, qui ont, comme le disait Patricia, rempli pleinement leur fonction maternelle, parentale, et qui se retrouvent maintenant en grande précarité.
Donc c'est-à-dire qu'on voit bien que cette inégalité, elle est de la naissance jusque, enfin, là
jusqu'à
on va...
ce jour,
ouais. Et c'est... Vous aviez ça en tête, ce côté où finalement ça va suivre tout au long de la vie?
Bah non, pas trop, non. Moi je l'avais pas en tête.
Ouais, t'imaginais pas...
Non.
Moi ouais, enfin. Non plus.
Et d'entendre ça, ça vous évoque ça, quoi?
Bah moi du coup je me dis que j'ai pas... Enfin, j'aurais dû y penser un peu, mais...
Bon, après...
Non, oui, non, bah après... bah moi je trouve que... Non, enfin, je... Non, non, rien.
Ouais, ça... parce que je voyais vos têtes et je me dis, oui, vous aviez pas imaginé
non.
Que, bah, du coup, du point de départ jusqu'à très, très longtemps, en fait, cette inégalité, bah, on la subissait tout au long de sa vie, en fait.
Bien, elle s'amplifie au fur et à mesure de l'âge aussi, parce que, du coup, comme il disait, à la fin, en retraite, c'est compliqué.
Mais là, ça va être très compliqué aussi pour les jeunes. Parce que les contrats de travail qu'ils vous font, c'est des contrats de 30 heures. Il y a plus de... Nous, on avait des contrats de 40 heures, 42, quand c'était pas un peu plus, pour celui qui avait la chance d'avoir un contrat. Mais vous, il y a plus de contrats de travail comme avant. Avant, c'était des payes, ça tombait, c'était, voilà, c'était du bonheur à la fin du mois pour celui qui avait un contrat de travail. Alors, il arrivait à faire manger toute une famille, tandis que maintenant il faut être deux pour toucher,
pour assumer
le suivi. Ça va être encore plus dur maintenant, je pense.
C'est pour ça que, enfin, je trouve, je sais plus où est-ce que j'entendais ça, mais il y a le taux de natalité en France qui baisse aussi.
Oui.
Ah ben oui.
Ah, t'entendais peut-être ça au dernier discours d'Emmanuel Macron qui a parlé du repeuplement de...
D'accord.
Ah oui.
Bah je sais pas.
Mais... Oui, parce qu'avant c'était que des grandes familles.
Hein. Oui,
on
oui,
avait
oui.
Minimum 4-5 enfants. 4-5 enfants par famille.
Bah, et quand on parlait des familles tout à l'heure, effectivement,
ben oui.
Là où aujourd'hui il y a 1, 2, 3 enfants,
c'est 3.
Et encore.
La famille nombreuse, c'est 3.
Ouais, c'est ça.
Oui, c'est ça. 3, c'est déjà. Voilà. Ouais. À l'époque, il n'était pas rare d'avoir des familles de 5-6 enfants.
Parce qu'il n'y avait pas de contraception.
On y vient. La fameuse contraception. Donc,
il n'y en avait pas.
Qui aujourd'hui.
Les rentrées dans la Constitution.
Ah non, ça c'est l'avortement.
Ah.
On va pas confondre. Parce que justement, attention, l'avortement n'est pas une contraception. Mais du coup, la contraception, hein, la pilule, du coup, qui aujourd'hui est accessible, mais qui à l'époque ne l'était pas. Et puis, on ne sait pas trop, là, pareil.
C'était pas rentré dans les mœurs de tout de suite, hein. Elle est sortie, mais les gens la prenaient pas. Ou alors, celle qui la prenait, il fallait qu'elle se taise, parce que c'était mal vu, hein, quand même.
Oui, il y avait un petit côté, si tu prends la pilule...
Oui, c'est que tu vas ailleurs.
Ouais, d'accord. Ok. Ah oui, l'image...
Sympa,
En même temps, on en a parlé en préparant cette émission, hein,
oui.
De la fameuse phrase « un homme à femme » contre...
putain, il faut
putain,
le dire.
Ou salope, enfin voilà. Hein. Et ça, je pense que toute génération confondue, encore aujourd'hui,
ouais.
On voit qu'il y a des disparités oui. là-dessus. Il y a le côté, pour un homme, c'est plutôt, plutôt bien. Pour une femme, c'est quand même une fille oui. facile. Enfin, voilà. Ça change pas trop. Hein.
C'est vrai. Mais oui. par contre, il y avait un accompagnement qui était peut-être plus important que maintenant au niveau des plannings familiaux.
Mm-hmm.
Donc, c'est vrai qu'on avait cette possibilité d'avoir un intermédiaire qui nous expliquait la contraception, les rapports et tout ça. Donc, on avait en dehors de la famille, enfin pour moi, une éducation sexuelle.
Alors, non, aujourd'hui encore, normalement, hein, dans les collèges, hein, oui, il y a des interventions, du planning familial. Maintenant, c'est même rentré hein, dans les programmes. Hein, et du coup, ça, c'est aussi une avancée très importante.
Ça, c'est bien.
On peut le noter.
Oui.
Et on parlait d'avancée très importante. Andrea, elle voulait y venir. Elle a voulu y aller même un peu plus vite parce qu'on en a beaucoup parlé. C'est même par ça qu'on a commencé. Hein. Il se passait quelque chose de fou cette semaine.
Ouais, je l'ai dit plein de fois que l'avortement il est rentré dans la Constitution parce que sinon ça aurait été banni. On peut pas bannir un droit.
Est-ce que vous vous rappelez, vous, de quand l'avortement a été légalisé en France ? Est-ce que c'est quelque chose qui vous a marqué ?
Oui, la loi Veil, oui, bien sûr. Puis bon, tout ce qu'on a pu connaître grâce à Gisèle Halimi, l'avocate, qui a aidé les premières jeunes filles qui ont procédé à l'avortement. Donc c'est vrai qu'il y avait quelque chose qui était historique et puis intéressant, quoi.
En tout cas, ça vous a, oui, c'est quelque chose qui vous a marqué. Patricia, ça vous a marqué?
Un peu moins.
Un peu moins, c'est pas, oui, c'était pas.
C'était pas. Je sais que nous, on n'était pas. C'était pas trop dans notre. Chez nous, on parlait pas de ces trucs-là.
Hein. Mmh. Oui, c'était des sujets qui étaient encore un peu tabous. Hein.
Ouais, c'était tabou, voilà. On n'aurait pas pu dire à chez nous, bah, écoute, je suis enceinte, il faut que j'avorte. Hein. Je crois que ma mère, elle aurait pris là, un gros gourdin et elle nous aurait couru après. C'était pas possible chez nous, on n'aurait pas pu dire ça.
Oui, c'était pas des choses qu'on évoquait.
Quand on était enceinte, et ben on n'aurait rien dit plus tôt. On aurait été au bout de la grossesse, mais on n'aurait pas pu dire « je vais avorter ». Plus après, quand j'ai eu mes enfants, moi j'ai plus entendu là, c'était rentré
dans les mœurs,
mais à notre génération, à nous, pas du tout.
Enfin, okay.
Pour moi, hein.
Mmh. Non, mais c'est intéressant aussi de voir que bah, selon les villes où on vit, selon les familles, selon que les ressentis ne sont pas du tout les mêmes, parce que c'est encore le cas aujourd'hui. Hein. Faut pas, par contre, ça, que selon la famille dans laquelle on grandit ou selon le lieu dans lequel on vit aussi, bah, les choses ne seront pas aussi faciles.
Et puis il y a la complicité maintenant entre les parents et les enfants. Un enfant peut dire à sa mère, j'ai un petit copain... voilà, je voudrais prendre la pilule. Ça va mieux maintenant. C'est quand même normal. La maman, elle anticipe. Elle dit, écoute, si un jour tu vois que tu vas passer le cap, tu viens me voir et puis on ira voir
un gynécologue ou on ira au planning familial.
Maintenant, on court après les gynécologues.
Oui, il y en a plus. Mais en même temps, pour une émission sur la Journée internationale du droit des femmes. C'est important aussi de l'évoquer, hein, qu'il y a de moins en moins de gynécologues et que
voilà, mais ça,
on vient en manquer.
Voilà. Mais c'est vrai que maintenant, au niveau des parents, ça passe mieux le fluide de ce côté-là.
Et pour en revenir à cette loi Veil, c'est que quelque part, c'est sur deux choses, parce que à la fois cette grande avancée que l'avortement, mais aussi cette grande avancée d'une loi portée par une femme. C'est-à-dire que on a tous vu les images, hein, j'imagine, Andrea, Stéphania et Sacha, vous les avez vues aussi, mais c'était aussi quand même pas des images si fréquentes de voir une femme porter une loi et puis tenir tête à tous ces hommes, parce que voilà, c'est que il y a deux choses dans cette loi, c'est qu'à la fois c'était une vraie avancée pour les femmes. Et en même temps, elle était totalement portée par une femme qui était un peu lâchée quand même par beaucoup. Hein,
ouais.
Donc,
Oui, ça c'est vrai que c'était une image importante pour notre construction de femme, quoi. Mais en même temps, à l'époque, on n'oubliait pas de dire que c'était grâce à Valérie Giscard d'Estaing qu'elle avait pu accéder à cette possibilité. Mais bon, après, Simone Veil a su faire sa force et son discours, donc on l'a suivi.
Vous avez des questions là-dessus?
Pas vraiment.
Pas vraiment. Parce qu'on parlait un petit peu aussi tout à l'heure, hein, du côté modèle. C'est-à-dire que, bah, où est-ce qu'on voyait des modèles féminins? Enfin, je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. C'est-à-dire qu'on parlait un peu de la télévision, de la représentation des femmes à l'époque. Mmh. C'est-à-dire que où est-ce que les femmes étaient représentées? Sacha.
Non, mais c'est juste pour. En fait, je voulais juste dire un truc par rapport.
Vas-y.
Tout à l'heure, vous parliez des femmes qui étaient importantes pour les droits des femmes. Mais il y a aussi Olympe de Gouges, oui, qui a écrit le droit des...
Un peu plus avant.
Oui, oui, ouais. Oui, carrément, quand même. Mais voilà.
Ouais.
Oui, c'est vrai qu'on a eu quelques femmes de lettres qui ont été remarquables et tout ça, mais c'était toujours dans
oui,
un contexte.
Oui, c'était qu'un texte.
Ouais.
Elle ne l'avait pas mis en place. Non, elle ne l'a pas fait voter. Hein.
Non.
Non, elle n'aurait pas pu de toute façon.
Mais
il n'y avait pas de femmes à l'Assemblée nationale à cette époque.
Enfin, non, mais il y a eu toute une période où enfin, les femmes n'avaient pas de...
N'avaient pas le droit de voter.
Même le droit de vote.
La parole,
ouais. Même le droit
n'avaient
de vote.
N'avaient pas le droit à l'éducation, voter, travailler, divorcer. Mmh.
Et c'est vrai qu'on parle du droit de vote, mais on l'a vraiment aussi évoqué, hein, juste le fait de parler. Quand je dis de parler, d'avoir sa voix qui est entendue, en fait, pendant... Vous l'avez toutes les deux évoqué, qu'à un moment,
Même dans des repas de famille, quoi. Bon, c'était des femmes qui se levaient pour aller chercher les plats, pour servir. Et puis ces messieurs, après, allaient au fumoir, continuer leur conversation.
Ouais.
Mais bon, c'est vrai que...
Ouais, ouais. Mais juste le droit de s'exprimer, en fait, et puis de donner son avis, en fait, c'était quelque chose qui était déjà...
Déjà, même moi, je vois, les enfants n'avaient pas le droit de parler à table. Donc, c'est vrai que les discussions familiales étaient quand même très limitées, quoi. D'où, après, ce frein pour pouvoir parler en public dans sa vie professionnelle. Parce qu'on nous a pas donné la parole facilement, quoi.
Oui, on n'a pas appris à prendre la parole, à s'exprimer, à donner son avis. Ok.
Donc du coup, ouais, donc, juste à vous.
Oui, donc on parlait après des modèles, des enfin voilà. C'est-à-dire que est-ce que vous aviez des modèles de femmes parce que finalement, on voit que les femmes étaient très peu représentées, donc.
C'est vrai que la libération pour moi, ça a été plus par des textes de chanteuses comme Joan Baez. Oui. Anne van der Leuve, enfin des femmes qui avaient des chansons à texte et puis qui prônaient la liberté, l'évolution de la femme et tout ça, quoi.
Ok, ouais. Donc c'est passé par les chanteuses.
C'est passé par les chanteuses.
Par les chanteuses, et dans la variété française, il y en a eu des biens, quoi.
Eh ben allez-y, citez-la parce que donner des idées de découverte aussi pour les jeunes. Hein. Ils
iront écouter. Il y a eu Brigitte Bardot, Sylvie Vartan, tout ça, c'était quand même la mode yéyé, c'était très très suivi. Alors ça, c'était 60, mais comme nous, on était de 70, je veux dire, on a tout de suite été vers tout ce qui était anglais et tout ça, les Stones, les... Alors là, c'était vraiment la fureur, quoi. C'était la musique et beaucoup le cinéma. On avait quand même des gens qui étaient magnifiques. Alain Delon, c'était un très bel homme. C'était le top du top de... Même si maintenant, je peux pas dire que j'ai beaucoup aimé. Mais franchement, quand on voyait des photos de Alain Delon, moi j'avais des copines qui étaient complètement, elles étaient complètement folles.
Il y a aussi des femmes qui ont existé en étant les femmes d'eux.
Oui.
On parlait de Sylvie Vartan, c'était la femme de Johnny. Jane Birkin, voilà. La femme de Serge Gainsbourg. Donc elles ont existé à travers quand même l'image d'un homme.
Ben oui, et on l'a bien vu lors du décès de Jane Birkin, qui a eu quand même une très longue et belle carrière. Et il n'empêche que on l'a encore énormément présentée quand elle est décédée par les hommes de sa vie, en fait. Et ah, ça, c'est quand même encore, c'est quand même fou, hein.
Ouais, c'est vrai.
Mais on va faire une pause musicale avec une de ces femmes inspirantes, puisque c'est une chanson, enfin, qu'a choisi Véronique. Je l'ai trouvée. C'est Anne Sylvestre. Donc, Anne Sylvestre, grande parolière, hein. Donc, très connue pour ses chansons pour enfants, mais elle n'a pas fait que des chansons pour enfants. Et j'ai trouvé la chanson dont vous parliez. C'est Non, tu n'as pas de nom. Et ben, je trouve que en cette semaine où l'avortement est passé dans la Constitution, c'était la chanson idéale. On se retrouve dans un instant.
Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Oh non, tu n'es pas un être. Tu le deviendrais peut-être si je te donnais asile, si c'était moins difficile, s'il me suffisait d'attendre, de voir mon ventre se tendre, si ce n'était pas un piège ou quel douteux sortilège. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Savent-ils que ça transforme l'esprit autant que la forme, qu'on te porte dans la tête, que jamais ça ne s'arrête. Tu ne seras pas mon centre. Que savent-ils de mon ventre? Pensent-ils qu'on en dispose quand je suis tant d'autres choses? Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Déjà, tu me mobilises. Je sens que je m'amenuise. Et d'instinct, je te résiste. Depuis si longtemps, j'existe. Depuis si longtemps, je t'aime. Mais je te veux sans problème. Aujourd'hui, je te refuse. Qui sont-ils, ceux qui m'accusent? Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. À supposer que tu vives, tu n'es rien sans ta captive. Mais as-tu plus d'importance, plus de poids qu'une semence? Oh, ce n'est pas une fête, c'est plutôt une défaite. Mais c'est la mienne et j'estime qu'il y a bien deux victimes. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom. Ils en ont bien de la chance. Ceux qui croient que ça se pense, ça se hurle, ça se souffre, c'est la mort, c'est le gouffre, c'est la solitude blanche, c'est la chute, l'avalanche, c'est le désert qui s'égrène, larme à larme, peine à peine. Non, non, tu n'as pas de nom, non, tu n'as pas d'existence, tu n'es que ce qu'on en pense, non, non. Tu n'as pas de nom. Quiconque se mettra entre mon existence et mon ventre n'aura que mépris ou haine, me mettra au rang des chiennes. C'est une bataille lasse qui me laissera des traces, mais de traces je suis faite, et de coups et de défaites. Non, non, tu n'as pas de nom. Non, tu n'as pas d'existence. Tu n'es que ce qu'on en pense. Non, non, tu n'as pas de nom.
Eh ben merci Véronique pour cette proposition de chanson, parce que je pense que c'était quand même la chanson à écouter cette semaine.
Super.
Elle tombe à pic.
Elle tombe bien.
Elle tombe bien. Bon, pendant la pause, on a parlé un petit peu aussi de vêtements, parce que on l'évoquait hein, avant l'émission, que les vêtements des femmes étaient quand même toujours commentés, toujours jugés, toujours. Qu'est-ce que vous en pensez, vous, de l'évolution vestimentaire? Qu'est-ce que vous avez vécu? Comment vous l'avez vécu? On a parlé des mini-jupes, on a parlé de plein de choses.
Des tuniques.
C'est vrai qu'on a vite connu le jean aussi, qui a été un vêtement libérateur, quoi. Et je me souviens, bah, nous, à l'époque, on n'avait pas d'uniforme, mais c'était les clarks, donc les chaussures andins, le jean et puis les Shetland qui venaient d'Angleterre ou d'Écosse. Mais c'est vrai, c'était aussi un uniforme et c'était, ouais, c'était sympa de pouvoir porter toujours les mêmes choses, en fait. Mmh. Et bon, après, tout dépendait aussi de la famille dans laquelle on était, mais j'aurais jamais pu porter une mini-jupe ou quelque chose qui était beaucoup plus voyant.
Ouais. Alors que Patricia, on a parlé mini-jupe, nous.
Moi, j'ai porté la mini-jupe. Alors, je ne montrais pas à ma mère. Hein. Des fois, je partais en pantalon et j'arrivais à l'école en mini-jupe.
On le voit, ça, des fois, dans les films. Hein, le côté, bah, je me change quand j'arrive à l'école. Donc, oui. Ça, vous l'avez fait.
Oui.
OK. Et alors, quand on parle de mini-jupe, hein,
oui.
Je pense qu'aujourd'hui, on n'en voit plus beaucoup des mini-jupes comme ça.
Oui. Alors là, c'était peut-être un peu trop. C'est vrai que là, je reconnais que c'était quand même un peu trop.
Trop pour qui?
Pour celui qui voyait, sûrement. Hein. Pas celui qui portait. Il n'était pas aussi... On n'avait pas l'impression que c'était aussi court. Quoi.
Oui, mais en même temps, voilà. Enfin,
ça se porte toujours, hein, les mini-jupes.
Oui.
En plus... On va te remontrer les mini-jupes des années 70, je pense.
C'était quand même un pull, enfin, pas un espèce... Tu vois, c'était assez long comme ça. Tu vois, ça n'allait pas plus bas.
C'était très joli, hein, mais c'est vrai qu'on n'en voit plus beaucoup des aussi courtes. Hein,
Oui.
Et dommage ou pas?
Bah, je sais pas, parce que... Il y a beaucoup de mini-jupes qui sont genre qui ont des pantalons intégrés ou un truc comme ça.
Ah oui.
Donc c'est genre.
Non, il n'y avait pas, hein, le pantalon, il n'y avait pas. Hein. C'était la petite culotte en dessous.
Donc, bah, je sais pas. Parce que, voilà.
Andrea.
Je ne sais pas.
Non, mais parce qu'en fait, je vais aller un peu plus loin dans ma question. C'est que ces dernières années, on entend beaucoup de choses sur les tenues des femmes, hein, trop longues. Trop court dans les collèges, les shorts trop courts pour les filles. C'est toujours pour les filles, hein, c'est rarement pour les garçons. Et on commande beaucoup.
Si on n'a pas le droit de jogging.
Mais on commande, bah, les filles non plus du coup. Non. On commande beaucoup les vêtements des filles et on entend régulièrement. Enfin, moi qui travaille avec des adolescents, j'entends régulièrement des fois le discours. Oui, mais ça va déconcentrer les garçons. Et je me dis que, d'où vient le problème, en fait? Le problème vient-il des vêtements que portent les filles ou vient-il des garçons? En fait, cet argument de ça va déconcentrer les garçons m'agace toujours énormément.
Moi aussi. Ça va venir, c'est le problème des garçons et c'est un peu le problème des familles parce qu'elles doivent éduquer leurs enfants à ne pas regarder sous la jupe. Mais genre, quelqu'un met un crop top. Il y a quelqu'un qui te dit « Oh, ça va déconcentrer les garçons. » Genre, il a jamais vu un ventre de sa vie. Il trouve les ventres, c'est trop beau. Et genre, il est « Les ventres, c'est trop beau. Je suis déconcentrée, je peux plus rien apprendre. »
Ouais, et puis on est d'accord que c'est son problème.
C'est un problème d'éducation aussi. Enfin, voilà.
Oui. Et c'est aussi dans la rue parce que il y a des hommes dans la rue qui bavardent, étaient habillés en mini-jupe et ils disent « Elle le demande !» Ouais.
Elle l'a bien cherché vu comment elle est habillée. Le oui. fameux, elle l'a bien cherché.
Ouais.
Et alors ça agace ou...
Beaucoup.
Ça agace.
Beaucoup, vraiment.
Bah.
Pauvre Sacha parce qu'il se dit, oh, je suis le seul garçon, venez m'aider.
Bah non.
Non, il y a Anthony. Mais il réagit pas,
Non, mais je trouve que c'est un problème aussi d'éducation pour pour les garçons aussi, mais il y a aussi une part de responsabilité aussi.
Oui, mais on peut trouver que c'est trop. Effectivement, on peut trouver que c'est trop, mais on n'est pas conscient quand on a 14 ans, par exemple, qu'on peut que ça peut tourner au drame, quoi.
Bah, est-ce qu'on doit... Enfin, en fait, la question est toujours là, c'est qu'est-ce qu'on doit l'être dans le sens où pas sa responsabilité, c'est bien la responsabilité de l'autre qui n'est pas en capacité de...
Voilà.
De résister... Enfin, de... Je sais pas comment dire, mais c'est que...
Après, je trouve que les générations évoluent et que ça se... Enfin, ça se renouvelle. Non, mais je trouve que les générations évoluent et on est plus... Enfin, moi, je prends l'exemple du collège. Je sais que j'ai souvent des potes qui viennent, bah, pas en mini-jupe, mais avec des crop tops et des trucs comme ça. Les gens, ils jugent pas pour autant. Il y a pas des, des mecs qui vont venir voir et tout, tout. Donc, franchement, non, je trouve que les générations, elles évoluent. Alors, peut-être à votre époque, il y avait ça. Mais moi, je trouve qu'à notre époque, il y a plus trop ça, en fait.
Bah, en fait, moi, je réalise parce que réellement, moi, j'ai porté des crop tops parce qu'à l'époque, et on n'a jamais eu de réflexion, des lycées. Et là, on a vu quand même beaucoup de collèges et des lycées interdire le crop top, là où il y a 20 ans, ce n'était pas, c'était même pas une, comment dire, un sujet. En fait, c'est redevenu un sujet là où ça ne l'était plus. C'est en ça où je m'interroge, en fait.
Bah, je trouve que justement, ça l'est encore moins en ce moment parce que je trouve que les gens, bah, ils acceptent plus, enfin, tous les, bah, les gens, en fait, comment ils s'habillent.
Il y a quand même beaucoup de collèges qui ont interdit les crop tops.
Bah, moi, je sais que dans mon collège, c'est interdit. Après, c'est pas pour autant que mes amis n'en portent pas, hein. Voilà, parce qu'il y a, toujours des gens qui, de toute façon, qui respectent pas les trucs. Après, je trouve que le fait d'un collège, les jogging, pour moi, je suis d'accord, faut les interdire parce que bon, sinon tout le monde viendra en jogging et ça fait un peu négliger, quoi. Non, mais surtout quand le fait de venir en jogging, en fait, à l'école, moi, ça m'arrive, mais...
ça fait négliger.
Non, mais je trouve, j'irais pas jusqu'à... Il y a des gens qui en mettent tout le temps et bon, après, ils se font souvent bah, voir et choper. Mais bon, je trouve que le fait de venir en jogging à l'école, bah, ça fait négliger. Donc, tu vois, tu viens tous les jours en jogging, bah, le jour où t'auras un entretien de travail et que tu viendras en jogging... Je suis pas sûr que ton patron.
Ouais,
il
a, mais là, on n'est plus tout à fait sur le même. Non, là, pardon. On était sur le côté, enfin, tu vois, sur le côté ce qui est acceptable et ce qui est pas acceptable pour une fille. Et qu'est-ce que vous en pensez, vous, sur le.
Bah, moi, je suis un petit peu partagée quand même parce que je trouve que, par exemple, dans mon entreprise, il y avait quand même des femmes ou des jeunes filles qui s'habillaient de manière un peu provocante. Et c'est vrai qu'à l'époque, on disait, bon, promotion canapé, effectivement. Quelques mois après, il y avait des promotions. Donc, je sais pas, j'ai l'impression que quand même, l'habit, on dit, ne fait pas le moine, mais l'habit a une certaine portée quand même. La façon de s'habiller, elle est quand même révélatrice de notre intention ou de notre personnalité.
Patricia ?
Oui, ça peut vite devenir vulgaire, si on ne fait pas attention, bien sûr. Mais il y a des moyens de porter des choses un peu plus longues et que ça soit tout à fait dans la mode. Et puis voilà, bah après, c'est quand on mûrit qu'on voit tout ça. Quand on est très jeune, on se cherche. Hein.
Et puis après, on rappelle que chacun fait...
Ouais. Comme il veut.
Comme il veut.
Après, c'est ça aussi, parce que c'est la mode...
En tout cas, on rappelle surtout que ça ne doit jamais être prétexte. Ah, oui. C'est-à-dire que aucun vêtement n'est un appel à quoi que ce soit pour l'autre. Voilà, mais, le corps de, enfin oui. Voilà, le consentement reste toujours valable qu'on ait une mini jupe ou un pantalon, ça ne change rien. Oui. Voilà, et qu'une mini jupe n'est absolument pas un consentement. On le rappelle.
Il y a des hommes qui mettent des mini jupes. Hein.
Oui, voilà.
Ils mettent des kilts aussi.
C'est ça. Ouais. Mais du coup, c'est important de le rappeler hein, que le vêtement n'est absolument pas un consentement à quoi que ce soit. Comme on parle beaucoup de consentement, et c'est important de le dire, puis qu'on avait aussi, on voulait parler des violences faites aux femmes, donc bah, je pense que voilà.
Il y a la mode aussi qui joue sur ça.
Ça, oui.
Patricia ?
Ça enchaîne
oui
bien.
Ben voilà, oui. Vous vouliez parler justement hein, des violences faites aux femmes ?
Oui.
Alors, on en est où ? Quand je dis on en est où, c'est-à-dire est-ce que vous voyez une évolution ? Dans un sens, dans un autre, dans un... Voilà, on en a parlé et en fait on s'est rendu... Enfin...
Je trouve que la parole se libère et ça c'est très bien. Je pense que on a eu trop ce truc de nous fermer le clapet très jeune. Et je pense que maintenant, toutes ces femmes qui ont créé MeToo, etc., je trouve ça c'est génial parce que ça a libéré la parole de gens qui n'avaient... Elles se sont dit, bah, je vais pouvoir parler, c'est anonyme, et ça, c'est bien.
Véronique ?
Oui, c'est vrai, ça, c'est important. Bon, moi, j'ai jamais été dans ce contexte de violence. En tout cas, je l'ai refusé très rapidement parce que j'étais très rebelle du fait d'avoir été longtemps étouffée. Après, ça a amené à des extrêmes. Mais oui, c'est important que l'on puisse dire, mais que l'on ait en face des institutions compétentes qui prennent en charge la parole et le suivi, quoi.
Sacha. Après, on l'a un peu dit tout à l'heure. Moi, je m'en étais pas forcément rendu compte, mais je suis sûr que la justice française joue un peu là-dessus. Que moi, je trouve que c'est vrai que, bah, comme c'est dit, la parole se libère. Moi, je trouve aussi que de plus en plus, on entend mais surtout, on entend beaucoup les personnes célèbres qui sont justement accusées de violence ou de viol. Et du coup, je trouve ça bien. Après, souvent, justement, ces gens-là, bah, quand ils sont jugés, en fait. Donc je trouve que la justice française aussi devrait être un peu plus devrait prendre plus au sérieux les violences faites aux femmes.
Le sentiment que la justice n'avance pas aussi vite que la société.
Après c'est compliqué de changer la justice.
Pousse et hop, on voit que ça s'arrête à un certain niveau.
Ça freine.
Ça freine. Alors, mais de toute façon, ils vont pas pouvoir freiner trop longtemps, puisque de toute façon, quand il y a une poussée de cet ordre, ça va les dépasser. À un moment, il va falloir qu'ils prennent des décisions.
Oui, que les réponses soient en adéquation.
Absolument.
Parce qu'en fait, c'est presque... Quand on parle des violences faites aux femmes, ces réponses ou ces non-réponses des fois de la justice, police, enfin, ce qui arrive, c'est une deuxième violence, en fait, pour les victimes.
Les tribunaux sont complètement saturés. Et en plus... Quand vous avez une histoire, il y a des histoires dingues hein, qui sont sorties, je peux pas remettre le doigt dessus, mais je veux dire que les gens ne sont toujours pas jugés. Et moi, je pense qu'il faudrait les juger, mais pratiquement immédiatement. Parce que je crois que les gens veulent savoir. Ils veulent savoir ce qui va arriver à cette personne.
Après, il y a quand même des priorités dans la justice française et... Je trouve que ça devrait rentrer dans une des priorités. Maintenant, c'est sûr que la justice française, on peut pas la modifier en claquement de doigts, ça prend du temps aussi.
Non mais en fait, c'est aussi se dire qu'à un moment, il y a des choses où on le sait, le meurtre, c'est quelque chose de pas acceptable. Mais c'est qu'actuellement, des fois, ce qui peut revenir, c'est que on voit que le viol, bah la justice, on a les chiffres. Hein, j'ai pas les chiffres en tête, mais ils sont quand même très faibles. Hein, des viols où les personnes sont réellement condamnées. Mmh. Et donc du coup, en fait, on a l'impression que du coup, bah c'est acceptable puisque la justice ne punit pas derrière. Donc en fait, c'est en termes de discours que ça peut renvoyer, d'image que ça peut renvoyer ou c'est
mais
compliqué.
Mais je trouve que c'est pas assez parce que. Je trouve que tous les violeurs doivent être condamnés sur...
Mais tout de suite.
Tout de
Il
suite.
Faut qu'ils soient condamnés tout de suite. Parce que sinon, ça ne sert à rien. Ils ont le temps de recommencer.
Parce que si on n'a pas donné le consentement, ça doit être la première épreuve et la seule épreuve d'un acte de viol.
Bah et puis qu'il faut que la parole soit vraiment entendue et puis avec des gens qui soient formés parce qu'on voit que c'est pas non plus si évident hein, donc il y a beaucoup de travail en fait hein.
Il faut qu'il y ait aussi un rajeunissement de la magistrature et des juges. Donc je pense que quand on sera dans des générations un peu plus proches de celles des jeunes, les choses doivent évoluer plus rapidement.
Je suis tout à fait d'accord. Parce que c'est que des personnes âgées, en fait. Elles vont pas vite. Ce qu'il faut maintenant, c'est il faut y aller, il faut travailler. C'est pas avec des gens qui ont 80 ans, qui sont derrière un crachoir en train de dire, ben, on va y penser, on va y travailler. Non, ça va plus, là. Il faut que ça pulse de ce côté-là. Il y a beaucoup trop de violences faites aux femmes, aux enfants aussi. Il y a des enfants qui sont pas heureux, hein, qui maintenant on se défoule sur les personnes qui sont le plus fragile,
le plus vulnérable. Puis il y a une omerta aussi de classe, quoi.
Oui.
Après aussi, il y a aussi une question aussi d'argent qui rentre là-dedans, parce que quand il y a des quand c'est des gens...
Des gens au pouvoir.
Des gens au pouvoir ou des gens qui ont énormément d'argent. Bah, du coup, je peux prendre des exemples.
Hein. Gérard Depardieu.
Hélas, les exemples, en ce moment, on en a beaucoup.
Oui, il y a Gérard Depardieu, il y en a d'autres.
Polanski.
Les gens qui sont, en fait...
Nicolas Hulot, Patrick Poivre
d'Arvor. Ouais.
Voilà. Et en fait, ces gens-là, avant, je trouve aussi, il y a un exemple qui est Gérard Depardieu aussi. Bon, c'est compliqué parce qu'avant, on pouvait pas trop... Les femmes pouvaient pas s'exprimer. s'exprimer sur ça parce que c'était quand même une personne importante dans le dans les films français. Maintenant, je trouve que maintenant, étant donné que il fait plus trop de films, c'est plus comme avant. Je pense que c'est ça qui fait que du coup les femmes elles se sont elles ont pris la parole.
Je pense que c'est parce que les femmes parlent. C'est pas parce que Monsieur il est toujours Monsieur Depardieu, mais les femmes parlent et elles vont parler de plus en plus. C'est une poussée qui est en train d'arriver et ça ne s'arrêtera pas. Ça ne pourra pas s'arrêter.
Mais parce qu'on a essayé, enfin pour beaucoup, hein, ça a essayé, qui ont essayé de minimiser ou de, enfin voilà. Et là, on voit qu'on est à un stade où on ne peut
là,
plus.
Là, on peut dire Monsieur Depardieu, c'est un très bon acteur, etc. D'abord, ça, c'est dans le choix de tout le monde. Hein. Mais après, c'est cet homme, s'il mérite d'être puni, il faut qu'il soit puni. Il y a pas. Et c'est pas dans 20 ans hein, qu'il faut qu'il soit puni. Hein. C'est tout de suite, maintenant, là.
Après, c'est compliqué. Enfin, c'est compliqué. Non, mais j'ai pas. Pour le coup, j'ai moins d'arguments, mais. Je trouve que. Je prends pas la défense des tribunaux français, non, parce que c'est sûr qu'il faut que les viols ils soient.
Quand on dit pas prendre la défense, mais c'est aussi les moyens qui leur sont alloués. Quand on dit la justice, hein, c'est pas les magistrats. Enfin, c'est pas que ça. C'est qu'on sait aussi qu'il faut donner des moyens, il faut des formations, il y a plein de choses à mettre en place pour que la justice puisse faire son travail aussi. Enfin,
autour d'un tribunal, il y a plein d'emplois. Il y a pas que le magistrat.
Non, mais soyons clairs. Hein, quand on parle de la justice, c'est vraiment un sens très global et très large. Hein,
Mais après, c'est sûr que c'est compliqué aussi d'avoir. Enfin, moi, je sais que du coup, parce que moi, je travaille dans la justice. C'est sûr que c'est compliqué aussi de prioriser parce que moi, je sais que je suis sûr qu'il y aurait plein de personnes qui travaillent dans des tribunaux qui seraient, qui voudraient même, je pense,
pour juger les petites affaires,
juger les viols, etc. Les violences faites aux femmes. Mais en fait, ils peuvent pas parce que. Ils sont payés par l'État et l'État leur demande d'abord en fait des priorités. Donc le problème, c'est pas la justice, c'est l'État en fait.
Oui.
Du coup, c'est la même chose. Mais bon, enfin, c'est pas les fonctionnaires de la justice.
Oui. Non, mais quand on parle de la justice, c'est les moyens qui lui sont donnés pour pouvoir exercer correctement la justice telle qu'on l'entend.
Mais je suis un peu d'accord parce que quand le président Il dit qu'il est fier avec Gérard Depardieu. C'est un peu compliqué de convaincre la justice de le condamner.
Bah, c'est là où des fois on voit que les violences, enfin comme en même temps ce que tu disais Anthony, hein, c'est que des fois les violences se sont à long terme et longtemps et en fait ça fait boule de neige, c'est que du coup tu vis plusieurs violences quand tu parlais de ces femmes qui on leur a imposé des choix quand elles étaient jeunes et finalement des choix qu'elles ont subis tout au long de leur vie et du coup finalement c'est violent tout au long de ta vie et bien là c'est un petit peu la même chose, c'est-à-dire que tu vis des violences et puis bah derrière les réponses que tu vas avoir vont être aussi assez violentes ou voilà et du coup c'est une
multitude. Et puis il y en a qui ne vont pas jusqu'au bout parce qu'ils se disent c'est trop compliqué, j'arrête, je vais reprendre ma vie où je m'étais arrêtée et je dis plus rien. Mais là ça veut dire que tu protèges celui qui t'a fait du mal.
Et puis ce qu'on peut constater aussi, c'est que l'âge des accusés actuellement, c'est un pur fruit des années 80. Donc des années libératoires. Oui. Et puis c'était, enfin en fait c'est une liberté qui a été mal consumée ou méprisée ou je sais pas, mais c'est vraiment
C'est vrai que
les scandales viennent un peu de là.
C'est ça, mais
les années Mitterrand, les années 80.
Quand on entend Judith Godrèche qui en parle très bien, mais quand on entend ça, on est effaré aujourd'hui de voir que cette jeune fille de 14 ans qui était avec un homme d'une quarantaine d'années, mais au vu de tout le monde et au su de tout le monde, et que finalement tout le monde validait ça. Et c'est vrai qu'en fait, quand on dit que la violence vient de plein d'endroits, c'est-à-dire qu'en plus, c'était, enfin pour beaucoup, c'était complètement accepté, toléré.
Hamilton, Mazdef, c'était cette génération aussi. Hein. Donc.
Ah, ça fait. Comme on parle des violences faites aux femmes, je vais vous redonner 2-3 chiffres, vous allez adorer encore. Toujours, le 6e rapport annuel sur l'état du sexisme en France, sorti en janvier 2024. Un quart des hommes de 25 à 34 ans pensent qu'il faut être violent pour se faire respecter.
D'accord.
Donc je pense qu'il y a encore du boulot sur les violences faites aux femmes.
En tout cas, moi, je suis pas partie de ce un quart.
Peut-être pas dans les hommes de 25 à 34 ans. Mais en fait, moi, j'ai été surprise de ce chiffre parce que c'est des hommes assez jeunes et de se dire que 25%, c'est
oui, encore, beaucoup, hein.
C'est énormément.
C'est énormément.
C'est en France.
Oui, en France.
C'est pas en Europe.
Et toujours sur les violences.
Ça aurait été en Europe, j'aurais encore. Enfin, je dis pas que je suis pour, mais en Europe, c'est sûr qu'il y a des pays qui le. Enfin, tu vois, en Europe, ça m'aurait pas trop surpris. Par contre, en France, ouais.
Et 50% des femmes de 25 à 34 ans, donc la même tranche d'âge, déclarent avoir vécu une situation de non-consentement. Donc la moitié des femmes du même âge. Donc on voit qu'il y a.
Et
désolé. Et ces gens, ils disent que ces statistiques sont fausses et que ça se passe pas comme ça, mais...
Oui, après,
on a des vraies statistiques ici.
Comment ?
On a des vraies statistiques ici.
Bah, les vraies statistiques, en tout cas, c'est quand même le Haut Conseil. Enfin, voilà, c'est pas des chiffres qui sortent
non.
de nulle part. C'est pas des enquêtes qui ont été faites. Enfin, voilà, hein, c'est quand même aussi des chiffres officiels. Donc, c'est vrai que j'ai trouvé l'autre jour en les voyant que c'était des chiffres qui faisaient assez froid dans le dos parce que à la fois, on se dit, il y a plein de choses qui avancent. Et en même temps, on se rend compte qu'il y a aussi...
Après, il faudrait qu'on voit aussi ceux de il y a longtemps, les chiffres, comment ils évoluent.
Mais je pense qu'hélas, il y a longtemps, c'était pas un sujet.
Ouais, non.
Aujourd'hui, non, mais... peut-être que la chance qu'on a, c'est que c'est un sujet, déjà.
Mais quelquefois, il y a aussi des violences qui sont reproduites par les femmes. Mmh. Parce que dans l'éducation qu'elles donnent à leurs garçons, il y a aussi des mises en garde ou des choses comme ça. Donc il y a des gestes qui se perpétuent sans réfléchir aux conséquences.
Mais c'est ça, c'est qu'on en parlait tout à l'heure sur le vestiment ou quand tu disais ça vient de l'éducation, mais beaucoup de choses viennent de l'éducation. Hein, donc c'est vrai que c'est important de bien penser à ça. Bon, on a dit beaucoup de choses. Est-ce que vous avez un petit mot de conclusion chacun ? Qu'est-ce que ça vous évoque ? Qu'est-ce que ça vous, Andrea ?
Qu'il y a des progrès, mais pas tant que ça.
Finalement, ok. Stéphania ?
Moi, ça me fait un peu peur. Enfin, oui, enfin, voilà. Et ça, je sais pas. Moi, je trouve ça un peu triste et dégoûtant.
Ouais, et qu'est-ce que ça... Toi, en tant que jeune fille, est-ce que ça te donne plutôt envie de te battre ? Est-ce que t'as un côté un petit peu lasse, déjà ? Tu vois, tu te situes...
Non, mais moi, j'ai envie de me battre. Hein.
Ouais.
Moi, j'aime bien.
J'aime bien me battre. Non, mais des fois, ça peut aussi être un petit peu un côté, des fois, déjà, à vos âges, le côté de lassitude, en se disant, mais ça va durer, voilà. Donc, c'est pour ça que je demande ça. Toi, Sacha ?
Moi, je me dis que... J'espère que ça va changer et j'attends le changement.
Ok, Anthony, un petit mot pour...
Je trouve que...
Et je soutiendrai juste...
Les mentalités n'ont pas forcément évolué, la société non plus. Maintenant, on sait beaucoup plus de choses parce qu'il y a des canaux de diffusion, comme les réseaux sociaux, comme Internet, la presse papier. Ça, c'était avant. Et tu te rends compte qu'il y a autant de malheurs qu'avant, finalement. Donc, on n'est pas sorti de l'auberge, comme disait mon père.
Patricia ?
Oui, je suis très contente que la parole se libère, qu'on en parle, mais ça fait beaucoup de mal parce que je trouve que de savoir tout ça, ça peut faire peur, quoi. Faire peur aux gens qui connaissent pas, qui sont pas conscients de ce qui se passe. Et puis j'espère que d'en parler c'est bien, mais il faudrait maintenant agir, quoi.
Ok. Et Véronique ?
Moi, il y avait une phrase dans le discours de Judith Godrèche qui m'a beaucoup plu et c'était « Pour se croire, il faut être cru ». Et je pense que ça, c'est important de libérer la parole, quoi.
Effectivement, très belle phrase de Judith Godrèche et puis que je pense qu'il conclut bien cette émission. Et bien tout ce qu'on a pu dire tout au long de l'émission. Et bien un grand merci à vous toutes et tous.
Merci.
D'ailleurs on va la jouer vraiment très féministe. Un grand merci à vous toutes. Ça se fait maintenant quand les femmes sont en majorité. Ça vous va ? Sacha et Anthony, ça vous dérange pas? Non. Bon, bah, un grand merci à vous toutes, donc. Merci, Andrea. Merci, Stéphania. Je vais t'appeler Antonia. J'ai fait un mélange. Merci, Sacha. Merci, Anthony. Merci, Patricia. Et merci, Véronique. Et puis, bah, une prochaine, émission, avec le pôle prévention senior du CCS. C'est toujours un plaisir. Au revoir à toutes et tous.
Merci, Elise.
Au revoir.